à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, le feu qui a ravagé depuis jeudi 1700 hectares au cœur de la forêt des Landes est fixé et la moitié des évacués vont pouvoir rentrer chez eux, selon les autorités. En déplacement en Gironde, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une transparence totale sur la gestion des opérations menées contre le méga-feu qui sévit depuis juillet dans le département. Cannes féminine au Maroc, le Cameroun remporte la compétition pour la première fois de son histoire face au Malawi. L'Algérie termine à la troisième place après sa victoire au tir au but face au Maroc. D'abord, la vigilance orange canicule sera levée dès demain matin dans les 6 derniers départements du sud-est de la France concernés, où les fortes chaleurs vont néanmoins perdurer jusqu'en milieu de semaine, selon Météo France. Nous l'avons évoqué dans les titres, le feu qui a ravagé depuis jeudi 1700 hectares au cœur de la forêt des Landes, sans victimes ni dégâts matériels, est fixé et la moitié des évacués vont pouvoir rentrer chez eux, ont annoncé ce matin les autorités. Le Premier ministre Sébastien Lecornu en déplacement ce matin au Porge, la commune la plus sinistrée par le méga-feu de Gironde en fin juillet, a été huée par des dizaines d'habitants. Il a promis par la suite, lors d'une conférence de presse, une transparence totale sur le déroulé des opérations. Je vous laisse l'écouter.
Nous n'avons strictement rien à cacher sur le déroulé des opérations de protection incendie de ces dernières semaines. Ça vaut pour les Landes. Ça vaut pour la Gironde, vaut aussi peut-être pour d'autres territoires qui ont été confrontés à ça, parfois quelques maisons, parfois des communes beaucoup plus petites, mais on sait très bien qu'on a un enjeu en Corse, on a un enjeu dans le Var, et donc au fond, ce qu'on fait là ce matin a un mérite essentiel, ça permet de se dire la vérité, de revenir évidemment si vous avez des questions à poser sur ce qui a pu se passer ces dernières semaines, et j'ai pris cet engagement auprès du maire du Porge, mais je le dis aussi pour les collègues maires qui sont à côté de lui. J'ai demandé à la préfète, j'ai demandé au contrôleur général qui commande et qui dirige le service départemental d'incendie et de secours de tenir toutes les réunions qui vont bien avec la population pour réexpliquer ce qui s'est passé minute par minute, heure par heure, la nature et la qualité des moyens qui ont été engagés, pourquoi tel ou tel choix tactique a été fait, parce que ce n'est pas des choix qui ont été décidés depuis Paris. Pour être honnête, la plupart des choix des premières heures n'ont pas été décidés non plus depuis Bordeaux. On est véritablement dans une approche tactique très très déconcentré de la prise de décision, et il y a de la colère, il y a de l'émotion, ça c'est bien naturel, hein. Les gens ont tout perdu, et plus que ça, mais je veux quand même qu'on remette un tout petit peu de vérité, de rationalité dans ce qui s'est passé, ça permettra à tout le monde de se faire une propos sur des faits objectivés.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et le tourisme en Gironde a enregistré sur un an une baisse d'environ 50% de sa fréquentation entre le début du méga-feu et la mi-août, selon la Chambre de commerce et d'industrie et le MEDEF du département. Et si la France est particulièrement touchée par les feux, le reste de l'Europe est aussi dévoré par les flammes. L'Espagne, le Portugal, la Grèce et le nord de l'Europe brûlent. Après la Grande-Bretagne, c'est au tour de la Belgique d'être confrontée à l'un des pires feux de son histoire. On fait le point avec vous, Inès Gilles.
Et oui, c'est un mur de feu qui semble inarrêtable, qui ravage actuellement la Belgique dans les Hautes-Fagnes. Ces vastes étendues de tourbières tuées dans l'est du pays. Depuis vendredi, les pompiers travaillent d'arrache-pied pour tenter de contenir le brasier. Des habitants de villages proches de l'incendie ont été évacués. Les feux ont déjà ravagé près de 3000 hectares dans cette réserve difficile d'accès et les flammes menacent désormais l'Allemagne voisine. La petite ville allemande de Monschau, frontalière de la Belgique, a ordonné dimanche soir l'évacuation d'un quartier exposé au risque d'incendie. L'armée allemande a mis à disposition 2 hélicoptères équipés de réservoirs d'eau pour venir en aide à la Belgique. Et dans le reste de l'Europe, la situation est préoccupante. En Grèce, les incendies ont fait 2 nouveaux morts ce dimanche. Les feux ont cette fois touché l'île de Salamine au sud-ouest d'Athènes. Et sous l'effet des vents violents, ils ont rapidement atteint des zones d'habitation. Bonne nouvelle néanmoins. Néanmoins, sur l'île de Skyros, l'incendie était en voie d'être maîtrisé dimanche après-midi grâce aux hélicoptères bombardiers d'eau mobilisés par les pompiers. Sud de l'Europe, toujours au Portugal, des centaines de pompiers sont mobilisés dans le nord où plusieurs foyers ont éclaté ce week-end. Et dans l'Espagne voisine, un soldat est mort dimanche alors qu'il participait aux opérations pour éteindre un important incendie en forêt en Aragon, dans le nord-est. Mais un peu de répit tout de même en Andalousie. Dans le sud de l'Espagne, les autorités ont autorisé plusieurs centaines de personnes évacuées à regagner leur domicile. Les feux, qui faisaient rage depuis 10 jours, ont ravagé plus de 25 000 hectares.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Dans l'actualité au Moyen-Orient, le pape Léon XIV a appelé à la fin des violences contre les civils palestiniens en Cisjordanie, alors que les attaques de colons israéliens se multiplient. Il a également demandé à la communauté internationale de faire avancer la solution à deux États pour parvenir à une paix juste et durable. L'émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer aujourd'hui en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour tenter de faire avancer le plan de paix américain à Gaza qu'il a jusqu'ici rejeté. Au Liban, depuis la crise financière de 2019, l'argent de nombreux Libanais reste bloqué dans les banques. Le Parlement vient d'adopter des amendements à la loi qui encadre le traitement des banques en difficulté. Au micro de Radio Orient, Alain Hakim, ancien ministre libanais de l'économie et du commerce. Pour lui, ce texte ne suffira pas à rétablir la confiance.
Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, la base de tout ce que nous discutons, c'est la confiance. La confiance, elle, ne se décrète pas. Elle se reconstruit par les actes, mais elle ne suffit pas. Et elle ne suffira jamais si le déposant libanais ne croit plus que son argent est protégé et que ses droits sont respectés. Donc, la priorité aujourd'hui doit être restaurer la confiance internationale et surtout restaurer la confiance du déposant et de l'investisseur. C'est-à-dire, pour permettre la restitution des dépôts aux Libanais, il y a deux critères de base. Premièrement, le cycle économique qui doit commencer de nouveau à tourner d'une manière normale, la normalisation du secteur bancaire transactionnel qui permettra bien entendu la restitution des dépôts à travers un échéancier clair, net, transparent et précis, bien entendu sur des périodes, mais néanmoins permettra aussi le déposant de voir le bout du tunnel et en fin de compte le bout de cette crise.
L'adoption de ces amendements, est-ce que ce n'est pas aussi un premier pas pour rétablir cette confiance?
Oui, bien entendu. Mais néanmoins, encore une fois, cette confiance a besoin d'action. Et jusqu'à aujourd'hui, les actions sont timides, elles sont éparses. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une manière de travailler d'une manière beaucoup plus logique, beaucoup plus scientifique. Il faut donc arrêter les demi-solutions. Le Liban doit déterminer les pertes qui sont survenues suite à cette crise financière et économique, établir les responsabilités d'une manière claire, mettre en place un calendrier crédible de restitution des dépôts des déposants.
Alain Hakim, ancien ministre libanais de l'économie et du commerce. Dans le reste de l'actualité internationale, l'épidémie d'Ebola, qui se propage à une vitesse inédite, est devenue la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo, dépassant en 3 mois les 2300 morts recensés lors de la flambée entre 2018 et 2020. En Russie, 6 personnes sont mortes dans une frappe de missile ukrainien dans la région de Belgorod, près de la frontière, selon les autorités locales. Retour en France et ce piratage massif du fisc ce lundi. Les contribuables vont enfin savoir si leurs données d'impôts ont été piratées. Les autorités doivent contacter individuellement chaque victime. Le Premier ministre présidera dans l'après-midi une cellule interministérielle de crise. On fait le point sur la situation avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nawal, une crise après l'autre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera cette réunion interministérielle en visioconférence sécurisée à son retour de Gironde. Une cellule de crise à hauteur de l'urgence, car environ 700 000 particuliers et professionnels sont concernés par le piratage du fisc. C'est considérable. Chaque personne concernée sera contactée individuellement ce lundi, vous l'avez dit. Objectif, les mettre en garde contre les risques de fraude. Pour les particuliers, des informations sensibles comme le quotient familial, le taux de prélèvement, mais également les numéros de téléphone et adresses seraient désormais en vente sur des forums pour plusieurs milliers milliers d'euros. En revanche, les données concernant les entreprises sont jugées moins sensibles puisqu'elles concernent notamment le numéro sirène, l'adresse de l'entreprise et du mandataire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs, mais l'ampleur de l'attaque relance le débat sur la sécurité informatique de l'État. Les sénateurs socialistes réclament une commission d'enquête parlementaire, tandis que le candidat Les Républicains à la présidentielle, Bruno Retailleau, appelle à bâtir une véritable forteresse numérique, je cite, pour protéger les données des Français. De son côté, Matignon assure que la réunion de ce lundi doit permettre de faire le point sur la mise en œuvre d'un plan de sécurisation cyber des administrations lancé au printemps dernier et qui s'articule autour d'une nouvelle gouvernance numérique de l'État et d'un renforcement des moyens.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et enfin, la CAN féminine a pris fin au Maroc. Le Cameroun a remporté la compétition pour la première fois de son histoire. Les Lions indomptables ont largement dominé le Malawi, 3-0 en finale. L'Algérie termine, elle, à la 3e place après sa victoire au tir au but face au Maroc. Un premier podium historique pour les Algériennes. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.